C'est avec beaucoup de joie, Seigneur, que nous nous sommes réjouis en ta présence. C'est avec beaucoup de reconnaissance, ô Dieu, que nous nous sommes tournés vers toi pour pousser de cris de triomphe, de cris de victoire, car nous savons qui tu es. Nous savons, Seigneur, ce que tu as accompli il y a plus de 2000 ans, lorsque tu es venu sur cette terre, dans un corps semblable au nôtre, et que tu as donné ta vie sur ce bois infâme de la croix. Je voudrais te dire merci, ô Dieu, pour ce privilège qui a été le nôtre, de pouvoir non seulement te célébrer, toi, qui règne et vis au siècle des siècles, mais aussi, Seigneur, de t'exprimer notre reconnaissance pour cette grande victoire que tu nous as acquise. Car ta parole est formelle, elle est claire, Seigneur, elle est déclarative et affirmative, quand, Seigneur, à l'issue du combat spirituel, tu l'as remporté à Golgotha. Tu as écrasé Satan, Seigneur, et tous ses sbires et tous ses démons, et tu les as publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par ta mort sur ce bois de la croix. Oh, merci pour tout. Merci, Maître. Alors que nous sommes dans ta présence, je te demande, Seigneur, de nous aider à rester concentrés sur toi. Je te prie, Seigneur, d'éloigner de nous toute pensée susceptible de nous distraire, Seigneur, et de nous détourner de toi. Je te prie, ô Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir la maîtrise sur nos pensées, afin qu'elles puissent rester focalisées sur toi et sur toi seul. Alors, tout ce qui sortira de ta bouche sera accueilli avec foi et confiance dans nos cœurs. Merci de bénir également ton serviteur, de l'assister, de le soutenir, alors que, Seigneur, il se tient devant ton peuple avec ses faiblesses, pour pouvoir les instruire de ta part, pour pouvoir leur parler de ta part. Merci, Maître, de nous faire du bien alors que nous te tendons une oreille attentive. Merci de nous donner cette écoute spirituelle dont nous avons besoin. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, il est bon, il est merveilleux. Ces temps que nous venons de passer en sa présence sont des temps merveilleux et glorieux qui nous ont permis donc d'aller vers le Seigneur et de lui exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et je suis convaincu que beaucoup, ont expérimenté la joie du Seigneur. Cette joie, nous ne pouvons l'expérimenter que dans la mesure où nous allons au-delà du voile et où nous entrons véritablement dans sa sainte tendre et puissante présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme notre sœur Candy nous l'a rappelé, ça fait 2 semaines que nous sommes pensés du combat spirituel, 2 semaines que nous nous laissons instruire par le Seigneur en ce qui concerne cette réalité ô combien importante, concernant donc cette bataille, ce conflit spirituel qui se déroule là et autour de nous. Et aujourd'hui, je voudrais revenir là-dessus pour essayer de voir ensemble, mes amis, comment nous devons tout faire pour que dans ce combat, nous demeurions dans la victoire que Christ nous a acquis à la croix de Golgotha. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il n'est que 8h, presque 45, donc vous n'allez pas me dire que vous êtes déjà fatigué. Non, vous ne l'êtes pas. Donc, par rapport à ce combat, le Seigneur a tout fait. Il a tout fait, mes amis, pour que nous puissions expérimenter cette victoire au quotidien. La Bible, contrairement aux autres livres de sagesse, aux autres livres dits sacrés, eh bien, est la vérité et tout ce qu'il nous dit, eh bien, est appelé à devenir une réalité dans notre vie. Et par rapport à ce combat, la Bible est claire. Christ a déjà vaincu une fois pour toutes. Nous nous engageons dans cette bataille sereinement, nous nous engageons dans cette bataille avec confiance, car nous savons, nous connaissons déjà d'avance l'issue de ce combat. C'est que nous finirons tôt ou tard, que l'ennemi le veuille ou pas, que quelle que soit sa stratégie, nous finirons par remporter la victoire, par triompher, car le Seigneur est avec nous, le Seigneur est en nous, le Seigneur est pour nous. Et ce matin, notre thème est intitulé ou est exprimé, formulé de manière interrogative, comment faire lorsque nous sommes cernés par nos ennemis? Car ennemis, il y en a. Je ne pense pas qu'il y ait dans cet auditoire un seul homme, une seule femme, qui puisse affirmer qu'il n'a jamais eu ou qu'elle n'a jamais eu d'ennemi et qu'elle n'a pas d'ennemi. Si tu vis avec ces sentiments, mon ami, tu es en train de t'endormir toi-même. Tu es en train de te distraire, car nous avons des ennemis. Si tu n'en as pas sur le plan physique, sur le plan visible, sache au moins, et la Bible est claire là-dessus, tu en as sur le plan spirituel. Alors comment faire lorsque nous arrivons à un certain moment de notre vie où nous avons l'impression, plus qu'une impression, où nous réalisons que nous sommes cernés de toutes parts par des gens qui nous veulent du mal. Nous sommes environnés par toutes sortes d'adversités derrière lesquelles nous sommes convaincus, tout à fait convaincus, qu'il y a la main mortifère du diable, qu'il y a la main satanique, qui a la main des ténèbres. Comment faire? Eh bien, nous allons aller rejoindre un des héros de la foi, dont la vie parle encore aujourd'hui, alors qu'il est déjà mort depuis de nombreux siècles, depuis des lustres. Mais sa vie parle encore, car c'est une vie qui a été marquée par une soumission totale et entière à son Seigneur. Elle reste là, dressée dans l'espace et dans le temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est héros de la foi, cet homme dont nous allons nous inspirer la vie, n'est autre que le prophète Élisée. À un moment, il va se retrouver environné, cerné, entouré par des adversaires, par des ennemis, et nous allons voir comment le Seigneur va le délivrer ou la délivrer. Nous sommes dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, et nous allons faire notre lecture à partir du verset 8, et ce jusqu'au verset 18. Deux Rois, le livre des Rois, c'est le deuxième livre, puisqu'il y en a deux, vous avez un roi et puis deux rois. Chapitre 6, nous lisons à partir du verset 8. Le roi de Syrie ou le roi d'Aram. Donc il y a des versions qui ont Aram, c'est la même chose. Donc araméen en hébreu ou syrien chez les Grecs, pour les Grecs, donc c'est la même chose. Le roi de Syrie, dont vous m'entendrez parler du roi d'Aram ou du roi de Syrie, c'est exactement la même chose. Le roi de Syrie ou d'Aram était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs ou ses officiers et dit « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, à savoir Élisée, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois, donc à plusieurs reprises. Le roi de Syrie eut le cœur troublé, tourmenté par cette affaire. Il appela donc ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur, le roi. Seulement, le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant ou le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Élisée répondit, « N'aie pas peur ou ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors Élisée pria le Seigneur en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et le Seigneur les frappa d'aveuglement ou de cécité. Amen. Gloire au Seigneur. Comment faire lorsque nous sommes cernés, lorsque nous sommes environnés par toutes sortes d'adversaires, par toutes sortes d'ennemis, par toutes sortes de gens qui ne jurent que par notre mort, qui cherchent par tous les moyens à nous voir patauger, nous vautrer dans l'insuccès, dans la défaite. Que faire lorsque l'ennemi arrive à lever la tempête tout autour de nous et que nous nous retrouvons environnés par plus qu'une tempête, une tornade ou par des tornades de plus en plus dangereuses? Que faire? Eh bien, la réponse se trouve dans ce passage. Et nous allons un tout petit peu nous attarder là-dessus. Nous nous sommes rappelés, ou nous avons donné l'occasion au Seigneur de nous rappeler très brièvement les armes qu'il met à notre disposition, armes dont nous avons besoin pour pouvoir nous battre, pour pouvoir combattre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la Bible, contre les choses physiques, les choses palpables, les choses tangibles, les choses visibles. Mais nous avons à combattre contre toutes sortes de forces du mal, contre les esprits maléfiques, contre des autorités démoniaques, contre Satan lui-même. Et puisque c'est un combat, mes amis, de nature spirituelle, il est donc important que nous recourions aussi à des armes spirituelles pour pouvoir combattre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand nous parlons de combat contre les dominations, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits maléfiques, contre les esprits démoniaques, contre toutes sortes de choses, eh bien cela ne veut pas dire qu'à chaque fois le diable se présentera devant nous en disant, voilà, c'est moi Lucifer, je vais t'attaquer, c'est moi le démon X, c'est moi l'esprit Y, je suis là, on va voir, allez, montons sur le ring, tu vas voir petit, comment je vais te massacrer. L'ennemi utilisera toujours des outils visibles, des circonstances adverses, même des personnes, hélas, des personnes pour nous agresser. Et le texte que nous venons de lire l'illustre parfaitement. Au-delà de la présence syrienne, avec leurs chars, avec leurs chevaux, au-delà de cette troupe araméenne qui était là et qui avait entouré, encerclé, cerné la ville de Dothan, la parole de Dieu nous apprend qu'il y avait derrière eux une force invisible. Alléluia. Tout comme nous voyons qu'Élisée, visiblement, était seul. En le plaçant, en le laissant dans l'espace et dans le temps, nous ne pouvions voir qu'un seul homme, le prophète du Seigneur, à savoir Élisée. Et dans ce passage, nous voyons qu'au-delà du visible, il y avait l'invisible autour de lui. Alléluia. Il y avait l'autre présence, la présence de l'armée du Seigneur. Gloire à Dieu. Le combat, c'est une réalité. Le combat, que nous ne le voulions pas, c'est une réalité contre laquelle, eh bien, nous faisons peut-être déjà face, ou alors nous aurons à faire face. C'est tous les jours que nous recevons des messages de gens qui sont dans la détresse, parce que leurs familles sont secouées par la maladie, parce qu'eux-mêmes, eh bien, n'en peuvent plus, ils ont l'impression d'être de plus en plus écrasés dans une sorte d'étau spirituel. C'est tous les jours que des gens viennent nous voir pour que nous prions pour eux, parce qu'ils ont l'impression que leur navire tangue de plus en plus, que les vagues destructrices, eh bien, les menacent de plus en plus et commencent même à s'infiltrer dans leur navire, au risque de la faire couler. Mais derrière tout cela, dans la plupart des cas, il y a toujours notre adversaire. Et lorsque ces choses arrivent, il n'y a qu'une question que nous nous posons. Comment faire? N'est-ce pas? Comment faire? Et quand on fait appel à cet adverbe « comment faire », ça veut dire qu'on se place dans la rubrique de moyens. N'est-ce pas? Quels moyens ai-je? Quels moyens utiliser? Des moyens objectifs pour pouvoir faire face à tous ces ennemis qui m'entourent. Vous voyez? Comment ferais-je? Comment ferons-nous? Eh oui. Mes amis, l'existence humaine est faite d'interrogations. Ceci est inhérent à la nature rationnelle de l'homme. L'homme se pose des questions et c'est normal. En face d'une situation adverse, en face d'une contrariété, d'une contradiction, en face de l'inconnu, de quelque chose qui suscite en lui l'incertitude, etc., l'homme, eh bien, se pose des questions. Et j'aimerais vous encourager à être de ceux qui se posent des questions. Avance dans la vie et arrive à faire des choix rationnels, des choix conséquents, ceux qui se posent des vraies questions. Car les vraies questions conduisent toujours à des vraies réponses. Ne soyez pas de ceux qui subissent la vie. Vous êtes là comme une feuille morte sur un courant d'eau. Eh bien, la feuille morte ne contrôle rien. C'est le courant d'eau qui le dirige, n'est-ce pas? S'il n'y a rien qui l'arrête, un morceau de branchage ou d'arbre qui traînerait quelque part, eh bien, le sort de cette feuille morte est connu d'avance. C'est de se retrouver plus tard, quelque part dans l'océan, et puis fini. Voyez? Ne soyons pas de ceux-là qui sont dans la vie comme des feuilles mortes. Dieu nous a donné la vie, alléluia. Plus que la vie, il est venu en nous par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Nous avons donc la capacité de pouvoir contrôler notre vie en nous appuyant sur lui. Alléluia. Nous avons donc la capacité de pouvoir faire des choix qui amènent Dieu à se manifester envers nous, pour nous et au travers de nous. Comment ferais-je alors que je suis cerné de toutes parts? Je voudrais attirer l'attention de chacun de nous à la fois sur cette interrogation, sur ces questionnements du serviteur d'Élisée lorsqu'il se lève le matin et qu'il sort alors qu'il est en train de s'étirer. Ah, quel sommeil j'ai eu, formidable! L'air de Dothan est un air pur, il est moins pollué. Il y a moins de particules fines, moins de monoxyde d'azote comme celui de Jérusalem. Oh, formidable. Et quand il ouvre les yeux, quand il regarde, il voit que quelque chose ne cloche pas. Dothan était une ville qui était donc entourée de collines aussi bien au nord qu'au sud. Donc il pouvait voir sur ces collines une armée avec des chevaux, avec des chars qui encerclaient toute la ville. Et il est retourné vers son maître, et c'est là qu'il va se plaindre. Oh, malheur! Oh, ha! Vous voyez? Ça exprime, mes amis, tout ce qu'il y a dans son cœur. Donc, le questionnement du serviteur d'Élisée, mais je voudrais également attirer votre attention sur la réponse du prophète. Et tout ceci dans un contexte de guerre. Et oui, la guerre, nous sommes en guerre. Et ma prière est que nous restions, mes amis, éveillés. Que nous sachions que quelquefois derrière des situations qui nous paraissent banales, quelquefois derrière des circonstances qui nous paraissent tout à fait normales, eh bien quelquefois, il y a toujours l'ennemi qui rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est dans sa nature de détruire l'homme. Voyez? Vous pouvez tout faire, essayer de flatter le diable. Il peut vous donner l'impression qu'il est sensible, même à votre larme. Oh, pitié! Il te regarde, mais pour mieux t'achever. Car il ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. Il est là pour détruire. Il est là pour diviser. Combien de foyers sont divisés aujourd'hui? Il est là pour briser les ménages. Il est là pour tout cela. Voyez? Mais avant d'aller plus loin, dans la réflexion sur ce passage où il y a tant à dire, laissez-moi vous poser une question à laquelle je n'attends pas de réponse de votre part, au risque de transformer l'Église aujourd'hui en une classe ou en un auditorium quelque part sur un site universitaire. D'après vous, quel est le commandement, l'injonction que nous trouvons le plus dans la parole de Dieu, l'injonction, l'instruction la plus couramment répétée? Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, quelle est cette injonction-là? Quelle est cette instruction-là? Eh bien, comme je dis, je ne veux pas vous poser la question. Autrement, vous allez vous mettre à vouloir fouiller la Bible, mais vous n'y arriverez pas parce qu'il y a 66 livres. Et nous n'avons qu'une heure pour terminer. Même pas. Vous voyez? Donc, quand nous regardons la parole de Dieu, bien le seul commandement, la seule recommandation que nous trouvons dans la parole de Dieu qui réapparaît le plus souvent et qui représente l'instruction la plus fréquemment répétée par le Seigneur envers son peuple, eh bien, cette instruction, cette injonction est énoncée par ce trois mots. Ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. Que ce soit dans l'Ancien Testament, je pourrais vous demander cet exercice-là, qui ne pourrait être que bénéfique pour votre santé spirituelle et même votre santé physique, de vous lancer dans cette recherche, d'aller chercher, de voir les occurrences, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, de cette injonction, ne crains pas. En d'autres mots, n'aie pas. Élisée commence par rassurer. Il vient avec une information de nature à les déstabiliser. Tôt le matin, il y a de nouvelles, mes amis, qui lorsque vous les entendez tôt le matin, votre journée est gâchée. Oui ou non? Vous êtes perdu, c'est fini. Voyez? C'est pourquoi, personnellement, j'ai une discipline. Quand je viens au culte, je n'aime pas parler avec des gens. Voyez? Quand j'arrive, mes collaborateurs, les pasteurs le savent. Je monte directement, je dis bonjour aux gens, je pars. Je ne veux pas être influencé, je ne veux pas être distrait, je ne veux pas qu'on me raconte une information que voilà, il vient te voir ceci. Je viens pour le Seigneur. Si vous avez quelque chose à me dire, attendez. Voyez? Voilà, on lui balance cette mauvaise nouvelle. D'après le serviteur. Oh! Maître, tu ne pourrais jamais deviner ce qui nous attend dehors. Tu ne peux pas croire. Et là, il est angoissé, il tremble, hein, parce qu'il voit déjà la mort. Ils sont à deux, avec son maître. Lui ne voit que ça. Mais heureusement, l'homme de Dieu voyait au-delà du visible. Alléluia. Lui ne voit que le présent, le tangible, le palpable. Et il commence par le rassurer. Ne crains, oh gloire au Seigneur. Quelqu'un a dit, rien n'est plus à craindre que la crainte. C'est un ennemi redoutable. Il y a beaucoup de vies en faillite aujourd'hui et qui pourtant auraient pu aller plus loin dans la réussite, dans le succès. Tout simplement parce que quelque part, la crainte est passée, la peur est passée et les a paralysés, les a presque anesthésiés. Voyez ? Et ils n'ont pas osé aller plus loin, car la crainte, c'est tout le contraire, c'est tout l'opposé de la foi. Car dans la foi, il y a la notion de confiance, oui ou non. Donc, il commence par le rassurer. Mes amis, la crainte, la peur, est une tentation à laquelle nous succombons souvent. Peut-être ce matin, tu es là, toi qui nous suis à la télé, ou tu es là, assis ce matin ici à la borne, avec la crainte dans ton cœur, parce que tu venais d'apprendre hier soir quelque chose qui t'a mis hors de toi-même, qui a suscité en toi toutes sortes d'angoisses, toutes sortes de sentiments d'effroi, de frayeur, et même pendant que tu es là, eh bien tu te dis, que ferai-je? Eh bien tu as bien fait d'être là. Parce que le Dieu d'Élisée est présent au milieu de nous. Si Élisée n'est plus de ce monde, eh bien, celui qui l'a servi, celui qui a répondu à sa prière, celui qui a ouvert les yeux de son serviteur, celui qui avait donné à Élisée, son serviteur, cet esprit, plutôt, ce discernement, ce dévoilement spirituel, celui-là est bien présent. Et il voudrait aujourd'hui faire quelque chose. T'ouvrir les yeux pour que tu réalises que ce qui sont avec toi. Plus que ceux qui sont avec toi. Celui qui est avec toi est plus fort et tout puissant. Alléluia. Nous succombons facilement à cette tentation. Et je vous dirais que la crainte est la raison principale qui nous empêche d'expérimenter pleinement l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Le vendredi, nous avions prié pour tous ceux qui avaient reçu une promesse qui avait suscité en eux une conviction, qui les avait amenés à croire dans la véracité de cette promesse, dans la véracité de cette parole reçue de la part de Dieu. Cette parole avait enflammé leur cœur. Ils se sont mis à prier en disant, « Seigneur, merci, tu m'as dit que tu vas le faire. Je crois que tu le feras. » Mais avec le temps, voyant que les choses ne se passaient pas comme Dieu le leur avait promis, les gens ont commencé à se décourager, à baisser les bras. Et petit à petit, cette promesse va être enterrée, car l'ennemi n'attend que ça. Il sème le doute, le scepticisme. Il amène, et le doute avec le scepticisme, eh bien, le sable vient, s'insère dans votre vie et enterre cette semence. Mais comme cette parole est venue de Dieu, eh bien, elle contient toujours la vie en elle. Et nous avions prié pour que celui qui est la résurrection puisse ressusciter cette promesse. Alléluia. Donc, ce Dieu-là n'a pas changé. Gloire au Seigneur. Et c'est la crainte qui nous empêche d'avancer. C'est la crainte qui nous empêche d'accéder à l'infinie puissance de notre Dieu. C'est la crainte qui nous amène à douter. C'est la crainte, mes amis, la peur qui nous amène même à désobéir à la parole de Dieu qui nous demande pourtant de donner simplement la dixième partie de ce que nous gagnons. Voyez-vous ? Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons peur du manque. Nous pensons qu'en donnant, eh bien, nous serons privés. Eh bien, tout cela pourquoi ? Parce qu'il y a la crainte en nous de se retrouver sans rien demain. Mais la Bible nous dit que nous ne marchons pas selon les circonstances visibles. Nous marchons selon la foi. Et la foi n'a que faire du contenu qu'il y a dans notre poche. Lorsque Dieu veut nous bénir, il peut nous bénir, même quand nous serions seuls, alors que nous regarderions à gauche et à droite en disant, mais comment Dieu va me nourrir? Il n'y a personne, je suis seul. Il est capable d'envoyer un corbeau. Il avait béni Élie. Il avait nourri Élie au torrent du Kérite en utilisant un corbeau, n'est-ce pas? Oui. C'est la peur de perdre ou de se retrouver sans rien qui amène beaucoup d'entre nous à mener une vie remplie d'avarice, une vie de main fermée. Il y a des gens pour qui le mot libéralité n'existe pas, hein, donner. Il y a des gens pour qui la générosité est à des années-lumière de leur existence. Voyez, ils sont toujours comme ça. Mais en même temps, il dit, Seigneur, donne-moi. Mais Dieu ne peut pas remplir cette main tant que tu gardes le peu là. Si tu fais ça, ça va tomber. Mais en tombant, eh bien, tu ne perds pas. Oui, logiquement, il n'y a plus rien. Mais c'est là que Dieu va remplir. Car la semence en tombant va nourrir les oiseaux. La semence en tombant va nourrir un passant. Alléluia. Et là, vous aurez contribué à la bénédiction d'autres personnes. Nous avons donc besoin de ne pas craindre. Voyez? Et comme l'a dit ce célèbre prédicateur presbytérien, le docteur Lloyd Ogilvie, après avoir fait l'étude de la parole de Dieu, il a relevé que cette injonction « ne crains point » se trouve dans 366 versets. Et d'ajouter que Dieu avait tout prévu pour chaque jour, il y ait un ne crains point pour chaque jour. Alléluia. Et Dieu a même été plus loin, puisqu'il y en a 366. Donc, il a ajouté un verset pour les années bissextiles. Alléluia. Voilà, parce que il y a des années où janvier, février, à combien de jours? 28, hein? Donc, on se serait dit, voilà, j'arrive à... Si on s'était arrêté à 365, mais les années bissextiles, on se serait retrouvé avec un jour sans cette injonction. Mais Dieu avait tout prévu. Alléluia. Ne crains pas. Mes amis, la crainte interrompt la foi et est un véritable obstacle à la confiance et à l'expérimentation de Dieu dans notre vie. Alléluia. N'oublions jamais que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la peur, la crainte, mes amis, paralyse la foi. Là où il y a la peur, là où il y a la crainte, eh bien, là, la foi ne se manifeste pas. Et à la base de cette crainte, il y a ce que je pourrais appeler la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. Si le serviteur d'Élisée avait eu le discernement qu'avait son maître, si le serviteur d'Élisée n'avait pas souffert de cécité spirituelle, il serait sorti, il aurait vu toute cette troupe autour de la ville, il serait rentré, d'abord avant de rentrer, il se serait mis à louer les seigneurs, en disant, Seigneur, c'est vrai qu'ils sont là, avec leurs chars, avec leurs chevaux, c'est vrai que c'est une troupe nombreuse, mais ceux qui sont avec nous, ceux que tu as mis autour de nous, sont plus nombreux, plus puissants qu'eux. Seigneur, je te loue. Il serait rentré en disant, Maître, nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer. Pourquoi, petit? Il dit, oui, ils sont là, mais Dieu est avec nous. Alléluia. L'aveuglement spirituel, la cécité spirituelle, mes amis, est un état qui induit la peur, qui induit toutes sortes de sentiments d'angoisse et autres. Et ce passage que nous venons de lire nous montre très bien, mes amis, que nous avons besoin d'être débarrassés de cet aveuglement ou de cette cécité spirituelle. Ce passage, comme tant d'autres à travers toute la Bible, parole de Dieu, eh bien, nous montre la réalité du monde invisible. Que dit Élisée à son serviteur, qui est affolé, qui est effrayé, qui a peur, vous voyez, qui est là à perturber? Qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Eh bien, il lui dit, n'aie pas peur ou ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ah, ceux qui sont avec nous. Mais, mettons-nous à la place du serviteur. Lorsque son maître lui dit, Élisée, l'homme de Dieu, ceux qui sont avec nous. Mais il ne voit rien, hein? La réalité du monde invisible. Si tu doutes encore, eh bien aujourd'hui, sache que tu es environné par un monde invisible. Et le monde invisible est une réalité. Voyez? Car une sorte de... où la chrétienté a amené les gens à nier le monde invisible, à banaliser l'action du diable. Pour certains, le diable, ben, n'est qu'une figure inventée par quelques esprits illuminés pour exprimer un peu le mal. Mais en réalité, le diable n'a jamais existé, les démons, etc. Faux et archi-faux. Et ceci est une grande victoire pour le diable. Élisée, l'homme qui voyait au-delà du visible, dit à son serviteur pour le rassurer, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Que pouvons-nous apprendre de cette simple déclaration du prophète Élisée, ceux qui sont avec nous? C'est-à-dire, sur le plan visible, sur le plan de la matérialité, eh bien, Élisée est avec son serviteur, oui ou non? Donc, ils sont en combien? À deux. Mais Élisée nous dit que pendant que tout le monde voit, là, d'autant que le serviteur, eh bien, le serviteur de Dieu et son serviteur ne sont qu'à deux, Élisée nous apprend qu'ils ne sont pas à deux. Il y a toute une armée spirituelle autour d'eux. Alléluia. Mes amis, nous ne sommes pas seuls. nous allons le voir. Où que nous soyons, non seulement le Seigneur est avec nous, mais les saints anges qui sont au service de ceux qui sont appelés à hériter le royaume, sont là aussi. Les patriarches les ont rencontrés, ces anges, comme Jacob, j'y reviendrai. Ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire avec le prophète et son serviteur, on ne le voit pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Le monde invisible est une réalité. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois personne. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a personne. Hein. Et ensuite, ceux qui sont avec eux, ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certes l'armée araméenne ou syrienne, avec leurs chars, avec ses chars, avec ses chevaux, mais la Bible nous révèle qu'au-delà de cette armée, il y a aussi une armée qui, quelque part, est en soutien et derrière cette armée syrienne visible. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques, contre les esprits maléfiques, mes amis. Ceux qui sont avec eux, on peut s'imaginer les serviteurs qui regardent, mais ceux qui sont avec moi, je vois les chevaux. Y a-t-il d'autres personnes? Eh oui, mon frère, il y a une réalité invisible qui est là. Voyez-vous? Donc, nous avons là deux camps. Il y a le camp d'Élisée, son serviteur, avec ceux qui sont avec eux. Il est serviteur de Dieu, donc ceux qui sont avec eux ne peuvent être que les saints anges. Alléluia. Et puis ensuite, il y a le camp des Syriens. Et ceux qui sont avec les Syriens sont les autres. Les autres. Les autres. Vous les connaissez? Eh oui. Ceux qui sont avec eux, eh bien, sont moins nombreux, moins puissants que ceux qui sont avec nous. Mes amis, le monde invisible, pour aller plus vite, existe. Et il est composé non seulement d'esprits maléfiques, d'esprits mauvais, d'esprits démoniaques. Ces esprits existent, mes amis. Même si il y a parmi les intellectuels certains qui sourient lorsque nous parlons de ces choses, eh bien, ne vous laissez pas ébranler dans votre foi. Vous devriez plus pleurer lorsque vous avez affaire à des gens comme ça, même s'ils ont un cerveau à plusieurs étages. Eh bien, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, car ce sont des choses que l'œil ne peut pas voir. Alléluia. Mais des choses que l'esprit nous révèle. Gloire au Seigneur. Donc, d'esprits impurs, des démons qui sont au service de Satan. C'est donc une réalité. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à prendre toutes les armes de Dieu, à nous revêtir de la panoplie spirituelle qu'il a mise à notre disposition, de cette armure indestructible, pour pouvoir, eh bien, nous engager avec assurance, avec confiance dans ce combat-là. Oui, il y a le monde invisible composé de ce premier camp, de ce royaume des ténèbres, dirigé par Satan avec une présence importante des démons, c'est-à-dire tous ces anges qu'il avait entraînés dans sa rébellion vis-à-vis du Seigneur. Ce sont tous ces esprits qui sont, mes amis, à la base de la destruction de la race humaine. Les choses immorales auxquelles nous assistons aujourd'hui ne sont pas d'inspiration simplement charnelle. Derrière ces choses, ces pratiques contre nature, derrière certaines formes d'idolâtrie, mes amis, à peine nommables, il y a plus que l'intelligence réprouvée de l'homme. Il y a l'implication démoniaque. Mais il y a aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, il y a le camp de Satan, mais il y a aussi dans le monde invisible une multitude d'anges qui agissent en faveur du peuple de Dieu. Les anges sont une réalité. Nous le voyons dans l'Ancien Testament. Nous le voyons dans le Nouveau Testament. C'est un ange qui est apparu à Zacharie alors qu'il était dans le Naos, dans le lieu saint, dans le temple à Jérusalem, où en tant que sacrificateur, il exerçait son ministère. L'ange Gabriel lui est apparu
L'ange Gabriel lui a parlé. L'ange Gabriel lui a apporté la bonne nouvelle selon laquelle lui et sa femme allaient avoir un fils qu'ils allaient nommer Jean. Johann, qui veut dire « Seigneur, fais grâce ». C'est encore cet ange qui va se révéler à Marie, cette jeune fille, pour lui annoncer aussi une bonne nouvelle, qu'elle allait devenir enceinte, qu'elle allait porter un enfant par la vertu du Saint-Esprit, et que cet enfant, après sa naissance, devait porter le nom de Jésus, car celui qui venait sauver l'humanité. Un ange, oui ou non? Gloire au Seigneur. Les anges. Genèse 32. On n'a pas le temps de passer à la moulinette, hein, les dames, tous les passages qui parlent des anges. Mais Genèse 32, versets 2 à 3, c'est l'expérience de Jacob, où il nous est dit que Jacob poursuivit son chemin, il a quitté Laban, où il avait vécu plusieurs années, il est en route vers la terre promise, il rentre quelque part au pays, et la Bible nous dit « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rejoignirent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm, qui veut dire « les deux camps » ou « les deux troupes ». En hébreu, ça peut se dire, d'ailleurs certaines versions ont « les deux troupes ».« Deux troupes ». Constitué de qui? Des anges. Là. Alléluia. Les anges. Hébreux 1, 14, dans le Nouveau Testament, et nous terminerons par là. Par propos des anges, écoutez ce que l'auteur inspiré nous dit. Les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voyez? Eh bien, cette armée de Dieu est constituée des saints anges qui sont tous au service du capitaine, du général des généraux, alléluia, du maréchal par excellence, le chef de l'armée, celui-là c'est Jésus, oh alléluia, et lui a déjà triomphé, et dans ce combat-là, eh bien, il gagne toujours, il triomphe toujours, alléluia. Et à chaque fois que les saints anges sont intervenus, que ce soit dans le cas de Daniel, eh bien là, à chaque fois, la victoire a été totale et entière. C'est à juste titre qu'Élisée, qui connaissait bien son Dieu, pouvait lui parler en disant à son serviteur, « Ne t'en fais pas, n'aie pas peur, ne tremble pas au risque de faire pipi dans toi. » Vous voyez ? Ne tremble pas. Sache une chose, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oui, ils sont là, ils ont leur char, et derrière leur char, il y a toute cette légion démoniaque qui viennent non pour me détruire, mais aussi pour faire reculer le royaume de Dieu. Mais rassure-toi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes amis, non seulement Dieu agit en notre faveur, Dieu est pour nous, et puisqu'il est pour nous, qui sera? Mais la Bible ajoute également que l'armée de Dieu, constituée de tous ses saints anges, arrive quelquefois sur ordre de Dieu, qu'ils se mettent au service de ceux qui sont appelés à hériter le salut. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons continuer, prier continuellement pour que Dieu ouvre, nous débarrasse, nous délivre de la cécité spirituelle, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous réalisions qui est celui qui est en nous, qui est celui qui est pour nous, qui est celui qui est avec nous. Nous avons des problèmes, les gens craignent, les gens n'avancent pas dans la vie, les gens ont peur des sorciers, les gens ont peur des magiciens, les gens ont peur des francs-maçons, des rosucristiens, de tous ceux qui chipotent et tripotent avec les puissances des ténèbres. Eh bien, mes amis, n'ayez pas peur. Celui qui est avec vous, celui qui est avec nous, et celui qui a vaincu, alléluia. Et quand il prie, les yeux du Seigneur s'ouvrent. Que voit-il? Il voit des chars, des chars de feu. Il voit des chevaux de feu. Il réalise qu'en réalité, il n'était pas seul. Jésus a dit, voici, je suis avec vous. Jusqu'à la fin de temps. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Toute autorité m'a été donnée. Dans les cieux, sur la terre, c'est Jésus-là, est avec nous. Alors nous n'avons rien à craindre. Il est celui qui est assis sur le cheval blanc de l'Apocalypse. Et celui qui écrase ses adversaires. Son nom est véritable. Son nom est fidèle. Son nom est roi de rois. Son nom est seigneur des seigneurs. Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Quand nous réalisons qui il est, alors nous n'avons plus peur. Quand on nous dirait que le nouveau collègue qui est arrivé, eh bien, c'est un occultiste, eh bien, invétéré, nous rendrons grâce au Seigneur. Merci de me l'avoir envoyé, car il va réaliser qui est avec moi et qui sont avec moi. Alléluia. Où que vous soyez, on vous mute à Bandundu. Allez-y, le cœur rempli de paix. Dès que vous mettez vos pieds à Bandundu, vous dites, Seigneur, merci. Car ta parole dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Qu'on vous dise que bientôt il y aura le grand rassemblement de tous les grands sorciers de Bandundu, eh bien, louez le Seigneur. Ce jour-là, chantez jusqu'à ce que vous vous fatiguiez, et puis allez vous jeter dans ses bras disant, Seigneur, je voudrais dormir et ronfler. Car celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Le monde invisible est réel. Alors n'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma sœur. Qu'on te dise que celui-ci ne t'aime pas, rends grâce à Dieu. Qu'on te dise que celui-là, depuis quelque temps, on le voit tout le temps aller quelque part en Gili, chez un grand féticheur, pour essayer d'empêcher ta promotion, souris simplement. Si Dieu a décidé, il n'y a personne qui bloquera la porte. Alors soyons en paix, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ils vont venir avec leurs chars, ils vont venir avec leurs chevaux, ils vont voir un seul homme, une seule femme, une seule personne. Mais en arrivant, ils se rendront compte que cet homme seul-là, en réalité, n'est pas seul. Le Dieu de gloire est avec lui. Alléluia. Alors, mon frère et ma sœur, nous allons prier pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Parce que cette crainte, cette peur, t'empêche d'aller de l'avant. Cette peur, cette crainte est une conséquence d'un aveuglement spirituel. Oui, tu as le nom de Jésus dans la bouche, mais combien tu ignores la puissance de ce nom-là. Alors que tu as tout pour réussir, alors que tu as tout pour gagner, alors que tu as tout, mes amis, pour écraser tes ennemis, tu restes paralysé, paralysé par une certaine peur. Tout cela parce que tu ignores qui est celui qui est en toi. Seigneur, nous bénissons ton saint nom pour cette grâce que nous avons de faire partie de ton royaume. Et faisant partie de ton royaume, eh bien, tu es devenu notre Père et tu veilles sur nous. Comme ta parole est dit, puisque tu es pour nous, qui sera contre nous? Oh, je prie pour que tu aides tous ceux, Seigneur, qui étaient dans l'angoisse, qui étaient dans la crainte par rapport à tel ou tel autre problème, tous ceux qui sont cernés, environnés par des ennemis qui ne cherchent que leur destruction, qu'ils sachent aujourd'hui que ceux qui sont avec eux en ton nom sont plus nombreux et plus puissants que tous ceux qui sont derrière leurs ennemis et leurs adversaires. Tu as vaincu à la croix et je prie pour que ta victoire devienne leur réalité. Au nom de Jésus, merci Seigneur.